Alors, Dominique.
Alors, j'ai lu quelque part, je ne sais pas où.
Est-ce que vous avez regardé tous ces meetings politiques? Parce qu'hier, vous ne m'en avez même pas parlé.
Mais je n'y arrive plus.
C'est pas vrai.
Non, non, mais attendez.
En fait,
il y a eu deux problèmes. Il y a eu la lassitude. Et je pense que je ne suis pas le seul à éprouver cette lassitude devant, finalement, ce qui sont des redites. Avec plus ou moins de brio, c'est-à-dire il y a un tel candidat ou candidate qui a voulu corriger l'image désastreuse d'un premier meeting qui serait arrivé. Puis en plus, comme on est dans la période non plus d'équité du temps de parole, mais d'égalité parfaite du temps de parole pour les 12 candidats, ces meetings n'ont pas été retranscrits dans leur intégralité. Donc ça a été
C'était des petits.
Voilà.
Donc des petits extraits. Donc puis, sortis du contexte, parfois c'est différent.
Voilà, c'est différent. Et puis si ça avait été dans l'intégralité, je crois que pas. Je crois pas que j'aurais marché dans la combine parce que il y a un moment où ça suffit. On sait ce qu'ils vont dire.
Mais vous n'aviez pas encore écouté Emmanuel Macron. C'était son premier meeting la semaine dernière.
Oui. Alors là, j'en ai pris des bribes et j'ai lu pas mal de comptes rendus. Bon, bah ça, c'est un meeting, quoi. Voilà. Et vraiment, on finit par se demander quelle peut être l'utilité. Surtout pour M. Macron, parce que c'était son seul meeting et il fait son seul meeting dans une période où ce meeting ne peut pas être retransmis en intégralité. C'est-à-dire son calendrier, je ne comprends pas pourquoi les gens qui l'entourent...
Parce qu'il est sûr de gagner.
Il était sûr de gagner. Il était sûr de gagner.
Ah, c'est bien de le préciser, Dominique.
Ouais, mais peut-être là, ça aurait été intéressant d'anticiper un peu un possible frémissement en sa défaveur. On entre dans le suspense là maintenant de cette semaine du premier tour. Alors je me suis laissé dire que il y avait quand même une grande excitation dans les instituts de sondage. C'est-à-dire ils se demandent s'ils ne sont pas mais fourvoyés mais dans les grandes largeurs depuis le début. Ce serait amusant. Alors s'il pouvait y avoir des grosses surprises, moi ça m'amuserait.
Ah oui, moi aussi ça m'amuserait.
Ah oui, ça nous mettrait.
Ça m'amuserait beaucoup.
Ah oui, c'est ça.
Ou lundi prochain, oulala.
Ah oui, ce serait absolument. Ce serait fabuleux. Mais c'est pas exclu, hein, parce que. Il y a 12 candidats, c'est beaucoup, alors il va y avoir un émiettement considérable, et puis il paraît qu'il y a près, c'est 31% je crois, des gens qui savent qu'ils vont voter, mais ils ne savent pas encore pour qui. Alors à ce moment-là, je pense que sur les 31, il y en a bien un bon tiers de ces 31% qui se foutent de la gueule du monde, qui savent très bien pour qui ils vont voter, mais pour ne pas être embêtés, ils disent « je ne sais pas pour qui je vais voter, mais je vais voter, mais je ne sais pas pour qui ». Voilà. Enfin, je pense qu'il va y avoir des surprises, oui. Alors, des surprises.
Bon, je trouve que ça tombe encore mal, les dates, parce que ça tombe pendant les vacances scolaires, encore une fois. Au niveau des abstentions, c'est pas pour avantager les choses.
Oui. Alors ça me revient parce que j'ai oublié tout à l'heure, je vous parlais des massacres. Et vous faisiez une tête, vous étiez très attristé parce que c'est évidemment très triste. Alors j'ai relevé une belle histoire pour vous, spécialement pour vous.
Je suis ravie.
Il y a un petit enfant qui s'appelle Timothée. Timothée, je le dis à la française, parce que je ne sais pas le dire autrement. Qui a 9 ans et qui est resté donc plus de 30 jours dans un sous-sol, si vous voulez. Mm-hmm. Ça a été le sourire de cette découverte de cette monstruosité. C'est-à-dire qu'il est sorti de là, tout souriant, cet enfant qui revenait à la vie, en fait. Et figurez-vous qu'il est très content d'une chose, c'est que pendant ces 30 ou 35 jours passés dans un sous-sol, quelqu'un lui a appris à jouer aux échecs.
Peut-être un futur champion.
Voilà, il y a toujours un moment où la vie vient dire, mais attendez, je suis là, moi la vie. C'est joli, ça vous plaît.
Ça me plaît, Dominique.
Voilà.
Ça, c'est beau. Voilà. C'est une belle histoire.
Et alors, il y a les grandes discussions, vous savez, sur comment ça s'appelle, la neutralité éventuelle de l'Ukraine. Alors moi, j'ai une solution à tout. J'ai une solution. C'est dommage, c'est trop tard pour que je me présente. Mais sinon, je me serais présenté.
Vous présentez où?
Aux élections présidentielles.
Aux élections présidentielles, ouais. Pour la France?
Oui, pour le monde.
Ah oui, pour le monde, bah oui.
C'est-à-dire, je souhaiterais que tous les pays, toutes les nations deviennent neutres. C'est-à-dire qu'on décrète, chaque nation se décrète neutre. C'est-à-dire que nous n'aurions plus que de la neutralité. Le grand principe universel serait la neutralité des nations. C'est-à-dire qu'on ne s'occuperait plus des affaires des autres. On n'empiéterait plus sur les territoires des autres. Ce serait la neutralité absolue. Je pense que ce serait un progrès sur l'humanité absolument formidable. Évidemment, qu'est-ce qu'on s'emmerderait, mais...
Oui, déjà...
Mais ce serait... Je trouve
déjà, nous, en particulier, voilà, ce serait déjà bien.
Oui, donc moi, je suis pour la neutralité universelle. Voilà mon programme politique, ma chère Fabienne. Est-ce que vous voteriez pour moi ?
Oui, Dominique, je voterai pour vous.
Je vous en remercie beaucoup. Je vous trouverai donc un poste à haut revenu. À haut revenu, puisqu'il paraît que c'est comme ça que ça marche. Il paraît que c'est comme ça que ça marche. Voilà.
Donc oui, je voudrais un programme.
Oui.
Enfin, évidemment, vous allez me le faire, mon programme.
Vous
me faites mon poste.
Je vais appeler McKinsey qui me dise le programme de Fabienne, et puis voilà.
Non, mais vous avez vu McKinsey, l'histoire avec la poste ?
Oui.
Vous l'avez lu, l'étude ?
Oui.
Non, mais c'est hallucinant.
Ah oui, mais tout est hallucinant dans cette histoire-là.
Je ne me souviens plus du montant qu'ils ont payé pour l'étude McKinsey. C'était pour les premières... les premiers bulletins pour les votes qui ne sont pas arrivés. Tout le monde ne l'a pas eu dans sa boîte aux lettres.
Moi, je n'ai pas eu.
Donc, ils ont... Non. Ils prennent le cabinet extérieur McKinsey pour se poser la question. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise pas ?
Oui.
Bah, reprenez la poste.
Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, j'étais comme vous, mort de rire, enfin, rire jaune en disant ça.
Moi, ça me fait pas trop rire.
C'est-à-dire que la poste, on a su la faire fonctionner magnifiquement pendant 100 ans. La poste, ça existe depuis longtemps, je crois. Je me demande si c'est pas sous Louis XI qu'on a commencé la distribution des courriers. Enfin, mais c'est très ancien en tout cas. Mais enfin, la poste moderne qui fonctionnait telle qu'on la connaissait, elle a fonctionné après-guerre jusque dans les années.
Jusqu'au Mail, je crois.
Parfaitement bien. Souvenez-vous de cette réplique d'un film avec Gabin et avec Maurice Birot qui s'appelle Le cave se rebiffe. Ils font de la fausse monnaie. Et le film de fausse monnaie, la gravure de fausse monnaie, il y a cette réplique absolument formidable, ce que je trouve, qu'ils ne savent pas quoi en faire tout le week-end pour que ce soit en sécurité. Et Gabin dit, il n'y a qu'à la confier à ceux qui ne perdent jamais rien, la poste. Et ils mettent leur truc un vendredi à la poste, ou un samedi, puisqu'à l'époque on travaillait le samedi, et le lundi matin, ça arrive au courrier, et donc ça arrive au courrier à l'imprimerie de Maurice Birot. Aujourd'hui, on ne pourrait plus dire ça. Surtout, vous ne confiez pas ça
à la poste.
Voilà. Ce n'est pas les postiers qui sont en cause. Hein. C'est ce qu'on en a fait. C'est-à-dire le délitement de la fonction publique, de la fonction d'État.
Oui, mais c'est-à-dire que la poste.
Oui.
Comme ils ont quand même moins de courriers. Il faut l'avouer.
Oui, maintenant, oui.
Ils ont moins de courriers. Donc, ils ont voulu se diversifier avec d'autres activités. Et je pense que c'est ça qui les perturbe.
Ben, ils ont voulu se diversifier parce qu'on les a inscrits, on a inscrit la poste dans une logique libérale de rentabilité de l'entreprise. Et peut-être on aurait pu inventer à la poste des métiers qui étaient davantage dans le cadre du service public et non pas dans le cadre de la compétition économique et d'avoir des métiers. Aujourd'hui, on s'aperçoit, on sait bien qu'il faut de plus en plus être présent, prendre des contacts avec des personnes âgées ou des personnes isolées, ça aurait pu être un complément d'activité, simplement la prise de contact, simplement ça pourrait être des activités de service public, de service
existe,
à rendre au public. Oui, mais la poste, c'était presque son cœur de métier, en tout cas. Qui autrefois, mais encore maintenant, qui connaît mieux sa rue, son quartier que le postier ? Qui connaît mieux ces gens-là ? C'est un
Je admirable. Je sais pas maintenant, parce que j'ai l'impression que les tournées des facteurs, elles tournent.
Hein. Oui, c'est ça, mais...
Avant, vous aviez un facteur, il était fidèle...
C'est ce que je dis, je veux pas faire le vieux con en disant c'était mieux avant. Mais il y avait un service public qui était fait par des gens du service public, qui faisaient leur mission comme en fonctionnaire conscient du service qu'ils rendaient à l'ensemble du public et à leurs concitoyens. Et les choses étaient fonctionnarisées, ça veut dire bien cadrées, bien réglées. Enfin, quand que vous rendez compte, le coup, moi enfant, il y avait deux dans la ville où j'habitais, il y avait deux. Oui, alors elle se moque.
Non, je me moque pas parce que je pense à ce que je faisais mon facteur.
Voilà, il y avait deux. Oui, mais vous faisiez des farces avec facteur, je présume. Voilà.
Exactement.
Voilà, mais moi non, moi je respectais les facteurs. Il y avait deux tournées de courrier par jour. On pouvait aller à la poste, mettre son courrier jusqu'à 19h. Enfin, vous rendez compte, on a l'impression que c'est un autre monde. C'est un autre monde. Mais on a dévitalisé la poste en disant bah maintenant, ils n'ont plus trop de courriers.
Si, ils ont des colis. Oui. Ça, par contre, des colis, ils en ont, puisqu'avec toutes ces commandes par Internet, ça, par contre, ils ont des colis à... Et puis même, alors, vous recevez votre colis, vous n'êtes pas content, vous leur demandez, vous leur dites, je l'ai mis dans ma boîte aux lettres, vous pouvez le reprendre.
Oui. Ben, c'est bien.
Voilà. Mais par contre, le courrier... Ben, y en a quand même pas mal qui sont perdus. Hein.
Mais oui, mais non, mais avant, ça se perdait pas.
Ouais.
Voilà. D'où la réplique du film. Et en même temps, vous vous rendez compte que j'arrive, Fabienne, dans le même temps, à vous parler de La Poste autrefois et à vous faire une citation culturelle d'un film.
Ouais, c'est fou.
Ouais.
C'est beau, Dominique.
Ah, ça vous a impressionné. Hein.
Ouais.
Ah, bah tiens.
Bon, on se fait une pause.